honte durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Avoir les moyens d'un habitat écologique. Avoir les moyens d'un habitat tout court. En France, de plus en plus de foyers se tournent vers l'habitat participatif ou habitat partagé. Lien social fort, approche environnementale, cadre juridique favorable. Si cela reste encore marginal, on recense tout de même aujourd'hui des centaines de projets d'habitat partagé sur nos territoires et ce mouvement est en hausse depuis les années 2000. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Pierre Servin, sociologue à l'Université de Brest Occidentale, qui a travaillé sur la question. Mais tout d'abord, direction le quartier des Quatre Moulins à Brest, dans le Finistère, à la rencontre d'Écoumène, projet d'habitat participatif géré par ses habitants via une association. C'est un reportage signé Aurélie Deniel de Fréquence Mutine, votre radio associative brestoise.
On est à Écoumène, chez Pierre et Natacha, qui nous ont accueillis aujourd'hui pour la réunion et pour le repas. Et on est là pour parler du projet Écoumène, qui est un projet d'habitat partagé qui est né en 2007. On a commencé à travailler en 2007. On est entré dans les lieux en 2015. Donc ça fait bientôt 11 ans qu'on est là. Alors moi, je suis Audrey et j'habite au 3e. Avec mon compagnon Guillaume et notre fille, puisque nous, on a déjà deux enfants qui sont partis il y a plusieurs années de cela.
Alors, il y a 6 foyers, il y a 2 personnes célibataires, 4 familles, et on est en moyenne 4 par famille après. Moi, c'est Tony, j'habite au rez-de-chaussée avec Aude, et puis Léonore et Sacha, mes deux enfants.
C'était en 2006 avec mon compagnon. Nous, on habitait à un logement qu'on avait acheté à l'époque, mais dans lequel, voilà, on ne se voyait pas rester pour diverses raisons. C'était une copropriété et c'est vrai qu'il n'y avait pas de rapport avec les voisins. On ne se voyait pas non plus aller en maison individuelle, en pavillon. Enfin, bon, bref, on ne se projetait pas dans la maison individuelle. Et on est parti à l'étranger pendant un an et on a proposé à des amis, à plein d'amis, de réfléchir sur le fait d'avoir un projet d'habitat ensemble en fait. Et donc au retour, au bout d'un an, on a commencé à plancher là-dessus avec les gens intéressés. Et quand on est parti, on avait nous comme base un document qui s'appelait le guide relié. C'est une association qui travaillait plutôt en milieu rural. Et donc ce guide faisait état d'expériences d'habitat ou même d'expériences, mais en milieu rural, mais où des gens avaient des vies collectives. C'était un point de départ, en fait. Le vivre ensemble, vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, là, un temps de réunion. Il y a des choses qui sont décidées tous ensemble. Il y a des temps d'accueil les uns chez les autres. Et en même temps, on peut être chez soi. Vous voyez, là, il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Ils avaient envie d'être tranquilles chez eux. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation non plus, quoi. Mais en même temps, si on ne se sent pas un minimum impliqué, ce ne serait pas ce que ce serait non plus, quoi, la qualité de vie. Donc il faut trouver un équilibre qui correspond à chacun, en fait.
Une importance du rituel, mais en même temps, sans que ce soit trop rigide. Que ce soit trop figé, ça laisse quand même une certaine liberté à chacun de se sentir bien dans l'action, dans la présence, quoi. C'est pas tout à fait ami, c'est pas tout à fait famille, c'est un peu entre les deux, quoi.
On va aller voir. Je vous laisse faire le tour. Oh, non, bon, on va pas rester très longtemps.
Ici, on est dans la cour de l'immeuble, qui n'est pas très grande, hein, puisque le terrain de l'immeuble il est pas très grand, il fait moins de 600 mètres carrés. Mais en fait, on trouve que c'est bien. Il y a une partie en pavé et puis il y a une partie de jardin qu'on aime bien. Et notre cour, elle est assez agréable l'été, il fait bon. Et même au printemps, parce que comme on est orienté plein sud, souvent les murs gardent la chaleur, donc on est bien le soir, même à Brest.
Voilà, c'est un immeuble en bois, c'est le plus beau de Brest. Il est plutôt carré. Au départ, on avait imaginé un projet un peu plus farfelu, mais bon... On s'est vite rendu compte que ça ne rentrait pas dans nos moyens financiers. Voilà, on nous a conseillé, puis on a suivi ce conseil-là de bien rationaliser les choses, et on ne regrette pas.
Un rez-de-chaussée, 3 étages, 4 niveaux. Et donc, il y a 2 duplex, qui sont des appartements d'environ 56 mètres carrés, je crois. Et puis, les grands apparts font 97 mètres carrés. Et donc, il y a 2 buanderies, une au rez-de-chaussée et une au 3e étage. Et des espaces de vie à chaque étage, des petits paliers. On les a utilisés parfois sur des réunions avant qu'on ait le local associatif Ecoumène, qu'on a construit l'année qui a suivi l'emménagement en fait. Et donc qui est un espace dédié à l'association Ecoumène et qui accueille des groupes, des associations.
Le local il est en face de l'immeuble, dans la partie sud du terrain. C'est un bâtiment qui est plus en longueur.
Au niveau du CA, du conseil d'administration, donc il y a des habitants et des non-habitants. Et ça, c'est dans les statuts, en fait. Donc, l'idée, dès le départ, c'est que nous, on n'avait pas envie d'être qu'entre nous. On s'était dit, on a envie d'une salle parce qu'on a envie qu'il y ait d'autres gens que nous qui soient là. Et on venait tous d'associations, en fait. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, les uns les autres. Et donc, on savait aussi que c'était une richesse d'avoir un lieu en tant qu'association. Donc, quand on a lancé le projet Ecoumène, il y avait l'idée d'habiter, voilà, pour nous, en tant que d'avoir un logement. Mais on voulait aussi proposer un lieu ouvert à toutes et à tous, et que ce soit simple.
Et puis, il y a un autre aspect par rapport à l'association, le fait qu'il y ait d'autres gens que les habitants, c'est que le fait d'avoir des personnes extérieures qui ne bénéficient pas directement d'habiter dans l'immeuble, bah, ça permet d'avoir une sorte de garant de la philosophie de départ du projet. Ces membres adhérents non habitants n'ont rien à gagner, par exemple, à la vente du bien, ou des modifications très profondes dans le fonctionnement ou dans le bien. Voilà. Bah, ça nous permet de dire, voilà, si jamais les habitants changent un petit peu de fusil d'épaule, comme on pourrait dire, ou d'être garant de ces valeurs de départ, pour dire attention, là, vous êtes peut-être en train de changer quelque chose de fondamental du départ. Et ça, ça peut être garanti par des gens qui n'ont rien à gagner directement à des changements éventuels.
Quand on s'est réunis, on se demandait, voilà, qu'est-ce qu'on veut en priorité, quand on a lancé le projet, d'être sur quelque chose d'antispéculatif. C'est-à-dire qu'on disait que le logement, c'est un droit pour tout le monde, que c'est important d'avoir un logement agréable, et que ça ne doit pas coûter une fortune, en fait, et que tout le monde devrait pouvoir se loger. On est loin de ça actuellement. On avait envie que le logement soit écologique aussi, le plus possible. On ne savait pas si on aurait les moyens ou pas de le faire, hein, mais c'était dans nos souhaits. On avait envie que les prises de position, les décisions pardon, soient collectives.
Le plus démocratique possible.
Sans vote. En fait, on cherche généralement le consensus. On n'a jamais... on vote pas, en fait.
Et puis, un aspect économique aussi, ou que ça... Voilà, que le fait de vivre là ne coûte pas trop cher aussi au quotidien. Et c'est vrai que là, on a réussi quand même à élaborer un système où ça nous coûte moins cher d'habiter là que ça nous coûtait avant dans n'importe quel logement qu'on avait occupé avant. Quand c'est vrai qu'en termes de charges, de consommation d'électricité, de consommation d'eau, de consommation de gaz, tout ça, on arrive à avoir une consommation très très réduite.
On consomme moins pour nous et pour la planète en fait. Il y a tout un système de chauffage avec des VMC double flux. On n'a qu'une chaudière pour l'immeuble, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de chauffer. Donc c'est vraiment intéressant actuellement.
Un système d'isolation par l'extérieur qui est assez efficace, du bois qui est peut-être le meilleur d'isolant, et puis des grandes baies vitrées qui donnent sur le sud, qui permet comme ça de bien prendre la chaleur du soleil même l'hiver et de la conserver.
Ça chauffe un peu l'été par contre.
On arrive sur le dernier étage là-haut. Un peu comme un jardin d'hiver, avec beaucoup de plantes.
On a donc une société civile immobilière, une SCI, avec un couplage associatif, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a abondé un compte courant associé, donc avec des prêts immobiliers, et on est déteneur de parts à 1 euro. Donc en fait, si on revend, enfin, si on quitte le projet, on va récupérer ce qu'on a prêté à la SCI pour construire l'immeuble. Et puis c'est tout en fait. On ne pourra pas revendre notre appartement 2 fois plus cher qu'à l'époque. Donc c'était vraiment un souhait. En 2026, on sait qu'on n'aurait pas les moyens financiers là d'accéder à ce type de construction, à cet immeuble, parce que les matériaux ont augmenté beaucoup. Enfin, il y a eu une inflation assez importante en France comme dans plein d'autres pays ces dernières années. Tout ce qui est matériaux de construction a beaucoup augmenté. Mais de fait, si on devait payer 30% en plus là nos logements, ben ce serait pas possible en fait. Donc c'est une réalité, ça.
Puis autre chose, moi personnellement, si j'avais su tous les efforts, les difficultés qu'il aurait fallu rencontrer pour arriver là, je pense qu'il est bien possible que je ne sois pas engagé là-dedans. Et en même temps, je ne regrette absolument pas.
Notre immeuble, c'est rigolo, mais quand encore maintenant, les gens peuvent ralentir en voiture, regarder, parce qu'ils interrogent en fait. Hein, ou même quand moi je suis dans le jardin, il y a des gens qui me demandent « Ah, alors, vous savez s'il y a des appartements disponibles ?» Bah oui, là c'est l'idéal. Les gens rêvent d'avoir un immeuble comme ça, clé en main, mais c'est pas possible en fait. Puis après, il faut avoir... En fait, je pense que pour vivre ici, il faut avoir envie du collectif. Hein. Voilà, manger ensemble régulièrement, se voir régulièrement, en réunion, faire des choses ensemble, bricoler ensemble, faire le ménage ensemble. Il faut avoir envie de ça. Sinon, on ne ferait pas une soupe mensuelle, on ne ferait pas des ateliers vélo, on ne ferait pas... Enfin voilà, on aime bien être avec les gens. Et puis, je pense que l'association Écoumène, c'est un lieu safe, hein, voilà, où les gens peuvent venir, c'est ouvert. Voilà, ils viennent comme ils sont, ils font ce qu'ils ont envie de faire ou pas, enfin, en tout cas c'est être là et partager des temps ensemble, et voilà.
Voilà, à l'instant, ce reportage au sein d'un habitat participatif et partagé dans un quartier de Brest. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous allons entendre Pierre Servin, enseignant au laboratoire d'études de recherche en sociologie à l'université de Brest occidentale. Pierre Servin a travaillé spécifiquement sur ce concept d'habitat groupé et participatif. Il est au micro d'Aurélie Deniel de Fréquence Mutine.
Alors, je m'appelle Pierre Servin et je suis sociologue. J'ai fait une thèse sur l'habitat participatif et j'habite moi-même dans un habitat participatif, donc à Écoumène, à Brest.
C'est quoi l'habitat participatif ?
Alors, l'habitat participatif, la définition, alors on peut en donner plusieurs, mais moi j'aime bien dire habitat groupé participatif parce que c'est groupé, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est un groupe d'habitants. Dans un habitat ordinaire, les gens, ils sont voisins, mais ils ne se coordonnent pas forcément ou voilà, ils ne forment pas une entité. Alors que dans un habitat participatif, les habitants forment un groupe. Par exemple, ils se donnent un nom. Collectif, c'est pas rien. Nous, ici, c'est le groupe d'Écoumène. Voilà, donc c'est un groupe quoi, qui essaie de faire des choses ensemble, qui essaie de se connaître vraiment, etc. C'est aussi l'habitat lui-même qui est groupé, c'est-à-dire il y a des espaces communs, beaucoup plus que dans les habitats ordinaires. Et puis ces espaces communs-là sont habités. Là où il y a des parties communes dans beaucoup d'habitats collectifs, je dis collectifs d'un point de vue architectural, mais là ils sont communs et collectifs dans le sens où ils sont vraiment habités, il y a de quoi y séjourner. Des fois, peut même être troublant, les gens ils peuvent croire qu'on est déjà chez quelqu'un, alors en fait on n'est pas chez quelqu'un précisément, enfin, on n'est pas dans un ménage ou l'autre ménage, mais par contre on est quand même chez quelqu'un dans le sens où on est dans le groupe habitant. C'est-à-dire comme si le groupe lui-même était une sorte de cellule domestique en tant que telle, quoi. Donc on est déjà chez quelqu'un, on est dans le groupe, quoi. Donc voilà, il y a des espaces communs supplémentaires, que ce soit des espaces communs utilitaires, c'est-à-dire des buanderies, des chambres d'amis, tout ce genre d'espaces qu'on peut réduire. L'intérêt, c'est comme on est ensemble, ça permet de réduire ces espaces-là. Ça sert à rien d'avoir une buanderie en fait, dans chaque appartement, ça sert à rien d'avoir une chambre d'amis. Donc ça sert aussi d'économie. Mais il y a aussi des espaces communs qui sont des espaces communs de rencontres. Ça, c'est autre chose. C'est des espaces communs qui sont en plus... typiquement une salle de réunion, une salle de fête, une salle pour faire des activités en plus. C'est-à-dire que ce qui n'aurait pas été possible si on ne s'était pas mis ensemble, et puis en plus qui n'aurait pas de sens si on ne s'était pas mis ensemble, c'est-à-dire que ça ne servira à rien. Alors que là, c'est un peu l'espace vraiment qui matérialise et qui symbolise le plus le groupe, l'activité du groupe, le projet commun. Donc voilà, ça c'est les espaces de rencontre. Et puis, il y a une sorte de mix entre les deux qui est assez intéressant, c'est quand on fait en sorte que des espaces communs utilitaires prennent la forme aussi d'espaces communs de rencontre. Donc typiquement, là, dans notre immeuble, c'est les paliers dans l'escalier sont volontairement agrandis. C'est aussi des espaces en tant que tels qui peuvent être habités, qui peuvent être appropriés. Enfin, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des canapés, il y a des livres, il y a la décoration, chose qu'on ne voit pas habituellement dans un habitat collectif lambda, quoi, où au contraire, on fait en sorte que ça soit tout réduit au maximum et neutralisé au maximum. Donc là, un habitat participatif essaye au contraire de faire en sorte qu'il y ait plus d'espaces communs et qu'ils soient plus habités. Ça va un peu à l'encontre de l'habitat ordinaire qui essaye de réduire et neutraliser au maximum les espaces communs. C'est quand même quelque chose qui définit vraiment les habitats participatifs, cette forme de mise en commun de l'habitat.
Et alors, qu'en est-il du terme participatif dans la définition habitat groupé participatif ?
Participatif, ça veut dire aussi deux choses. La première chose, c'est que Ça, dans le sens de la démocratie participative, c'est-à-dire il y a des organisateurs et puis il y a des publics et le public prend plus de place. Ça, c'est le sens qu'on donne, par exemple, à un spectacle participatif. Il y a les gens qui organisent le spectacle et puis on essaie de faire en sorte que le public participe davantage. Démocratie participative, c'est pareil, il y a les élus, il y a les représentants de la démocratie, quoi, représentative. Mais on fait en sorte que les représentés prennent une part plus active que d'habitude. Bon, bah, là, c'est pareil pour l'habitat participatif, c'est-à-dire qu'il y a les professionnels de l'habitat, des architectes, des artisans, des urbanistes, etc. Mais on fait en sorte que les habitants prennent une part plus active. Alors ça peut être à des niveaux très différents, ça peut être sur des tâches très différentes, mais il y a toujours cette idée-là comme quoi les habitants prennent une part plus active, qui peuvent aller sur certains points jusqu'à l'autogestion, c'est-à-dire pas simplement prendre une part active par rapport aux professionnels, mais carrément prendre la place des professionnels, faire à leur place, quoi. Et puis moi je vois un deuxième sens à participatif, qui est de dire que l'habitat participatif, c'est par définition un projet, c'est pas seulement un habitat, ça c'est au centre de l'habitat participatif, c'est pas simplement on habite, quoi, même collectivement, c'est aussi on participe à un projet. Il est attendu que les habitants participent à ce projet. Quand je dis que c'est pas simplement un habitat, c'est aussi, alors ça dépend d'un habitat à l'autre, hein, mais il y a toujours des objectifs qui sont soit écologiques, ou soit antispéculatifs, ou soit mixité sociale, ou soit mixité générationnelle, ou soit animation dans le quartier. C'est jamais tout ça à égalité, c'est pas possible. Il y a un projet par contre qui est tout le temps commun à tous les habitats participatifs par définition, c'est que il est attendu que les habitants aient plus de convivialité entre eux et aussi plus de solidarité entre eux. Et ça aussi, ça fait partie de la participation, c'est-à-dire qu'on trouverait bizarre dans un habitat participatif quelqu'un qui chercherait pas particulièrement des liens avec les autres. C'est, on a le droit, chacun chez soi, chacun le droit d'habiter chez soi, mais quand même on considérerait que quelqu'un qui ne fait pas ça ne participerait pas au projet attendu de l'habitat participatif.
D'où vient le terme habitat participatif ?
La pratique d'habitat participatif a existé avant le terme. Et puis c'est compliqué de dire à partir de quand a existé la pratique de l'habitat participatif, parce qu'on peut toujours comparer avec plein de types d'habitats qui sont proches ou qui sont pas proches. Enfin bref, ça revient un petit peu à dire qu'est-ce qu'on entend par là. Dans les années 80-70, on appelait ça l'habitat groupé autogéré. C'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, en tout cas de manière commune. Et puis dans les années 2000, il y a eu plusieurs associations qui en même temps ont fait une sorte de travail de lobbying pour faire en sorte qu'il y ait de tels projets comme ça qui soient suivi par des collectivités territoriales ou voire par l'État, l'idée de créer une loi autour de ça. Donc voilà, il y a eu une sorte de réseau de plein d'associations qui avaient tous leurs noms différents. Il y en a qui appelaient ça Habitat Solidaire, Habitat Groupé, Habitat Autogéré, Habitat... Bon bref, plein de noms. Et il y a eu une sorte d'accord en 2010 dans ce qui s'est appelé la première rencontre nationale de l'habitat participatif qui a eu lieu à Strasbourg. Et pourquoi ça s'appelle participatif ? Alors ça, c'est mon hypothèse. C'est pas du tout anodin, en fait. C'était des associations qui essayaient de faire en sorte que les politiques publiques, les institutions publiques rentrent dans le truc plutôt que ça soit des habitants qui eux-mêmes autogèrent et fassent leur truc tout seuls. Ils voulaient faire en sorte d'impliquer aussi les collectivités territoriales. Or, les collectivités territoriales, avant ça, avant 2010, ils disaient, ben non, ça c'est des trucs privés, on veut pas y participer, c'est pas possible, c'est de la politique privée. Et donc du coup, c'était en référence avec ce qu'on appelait la démocratie participative. Donc ça, c'était bon, c'était dans les cordes des collectivités territoriales de dire, ok, participatif. Donc finalement, quand on dit habitat participatif, c'était voilà, une stratégie, enfin, ou un terme, ou un accord pour faire en sorte que les collectivités territoriales, l'État aussi, participent aussi.
Est-ce que les habitats participatifs sont écologiques ?
Non, les habitats participatifs ne sont pas écologiques par définition. Ikoumen est un projet écologique, enfin, voilà, c'est un immeuble passif, les matériaux sont propres et écologiques pour la très 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 grande majorité. Voilà, on peut dire que c'est un projet écologique. Mais il y a des projets qui ne cherchent pas ça forcément, voilà, c'est pas leur truc. Mais cela dit, on pourra leur reprocher. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette idée qu'à partir du moment où c'est un habitat participatif, ça devrait être écologique. Et puis aussi, ça devrait être en mixité sociale. Et aussi, ça devrait être en mixité générationnelle. Enfin, ça devrait être tout à la fois, ce qui n'est pas possible. Donc, ce n'est pas forcément et nécessairement écologique.
Et enfin, l'habitat participatif peut-il se généraliser ?
L'habitat participatif, moi, me semble pas généralisable, en tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui comme habitat participatif, parce que l'habitat participatif, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est intrinsèque à ce projet-là, c'est que c'est hors norme. Quand on fait l'histoire sociale de l'habitat en Occident, il y a vraiment quelque chose qui va vers l'individualisation, vers la privatisation. Privatisation des espaces, privatisation des chambres, de l'architecture, de la propriété, enfin voilà, une privatisation. Et ça, c'est une tendance majeure depuis des siècles, dans l'histoire sociale de l'habitat en Occident. Et puis on estime qu'on est chez soi vraiment que si on est dans son chez-soi privé, avec l'idée qu'on est plus chez soi si on est propriétaire du chez-soi. Donc voilà, ça c'est la tendance majeure de notre habitat occidental. Le point commun, c'est que l'habitat participatif aussi cherche à mieux s'approprier l'habitat. Mais la différence majeure, c'est que au lieu de le faire en évitant les parties communes, au lieu d'aller vers la privatisation, et bien c'est en ayant plus de commun, que ce soit en termes de groupe, que ce soit en termes d'espace, que ce soit en termes d'équipement. Donc voilà, c'est par le commun qu'on s'approprie plus l'habitat. Et ça, c'est vraiment hors norme, c'est-à-dire qu'on soit politisé ou pas politisé, qu'on essaie de le mettre en place. Quand on va voir des banques et qu'on dit qu'on veut créer un habitat, mais qu'il n'y a pas vraiment de lot privatisé, c'est quelque chose qui est mis en commun, donc du coup ça appartient à moi, mais ça appartient aussi à mon voisin. Le notaire, le banquier, en général, il n'aime pas ça du tout. Même aussi si on veut brancher le gaz, l'électricité, ce genre de branchement-là, et qu'on dit qu'on n'est pas un individuel qui construit pour soi, et puis on n'est pas non plus un promoteur qui veut vendre à autrui, on est un groupe d'habitants qui construisons pour nous-mêmes, et ben ils nous disent mais non, mais ça n'existe pas, on n'a pas la case pour ça, ça n'existe pas pour nous ça. Et c'est là qu'on voit ce que c'est qu'une norme sociale, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment contraignant, et qu'on soit politisé ou pas, on va contre des normes sociales très très fortes. Ce rapport-là à la propriété, ce rapport-là à la privatisation. Donc tout ça, c'est hors norme. Le jour où la mise en commun de l'habitat deviendra quelque chose de normal, si jamais ça arrive, et ben dans ce cas-là, je sais pas si on appellera ça encore habitat participatif, on pourrait appeler ça un habitat mis en commun, mais ce serait plus cette dimension-là de hors norme. Par contre, il y a quelque chose, à mon avis, qui se généralise, enfin qui peut généraliser de façon plus probable et plus visible que l'habitat participatif, c'est... la participation dans l'habitat. C'est quelque chose que j'observe maintenant, je travaille aussi sur les copropriétés plus ordinaires. Et puis, on voit que dans les milieux de l'habitat, quoi, l'habitat participatif est devenu une sorte de référence connue. Moi, j'appelle ça un horizon de référence, c'est-à-dire qu'on sait que ça existe. Les copropriétés, enfin, il y en a qui disent, oh, nous, on ne veut pas aller jusque-là, on n'est pas, voilà, on ne veut pas aller jusque-là. Mais on sait que ça existe et du coup, on va s'en inspirer. C'est-à-dire qu'on va quand même faire quelque chose de plus participatif, de plus d'espace commun, quelque chose comme ça. Et donc là, essayer de générer plus de participation dans l'habitat sans aller jusqu'à l'habitat participatif. C'est un peu toujours la même logique, en fait. Quand on essaie de généraliser quelque chose, quand on essaie de le diffuser à plus grande échelle, du coup, on essaie de faire en sorte que ça soit plus dilué, quoi. Et donc du coup, par exemple, au lieu que tu ailles chercher tes produits bio en vélo avec le paysan avec qui tu prends beaucoup de temps à discuter, ce qui est hyper bien, hyper cohérent, mais ça touche très peu de monde et c'est très engageant, et ben du coup, on peut faire en sorte que les gens aillent acheter des produits bio au supermarché. Ça touche beaucoup plus de gens. Ben, c'est un peu pareil, quoi. Quelque chose qui peut se diffuser, ce serait peut-être pas des habitats participatifs à très grande échelle, mais quand même des démarches, des dispositifs moins engageants, qui vont moins loin, mais qui touchent plus de monde, quoi.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.